Chapitre 8. Un peu par malice, pour les faire languir, Gustave attendit une semaine avant de se décider à une visite chez les Cassagnols. Il allait, cet après-midi, sortir de chez son maître pour se rendre rue Toulier, lorsqu'on sonna. Jeanne, ce jour de soleil, avait accompagné sa mère en promenade au bois. Ce fut donc lui qui courut ouvrir. Un petit télégraphiste lui remit un télégramme qui, justement, lui était destiné. Nouvelle affreuse dont il tressaillit jusqu'au fond de l'être. Son père l'informait que la pauvre mamette, malade depuis seulement 3 jours, se trouvait à toute extrémité et qu'elle réclamait l'enfant à son chevet. « On n'est jamais heureux, » murmura-t-il. « Ah !» soupira M. Rucquois, d'autant plus touché par le chagrin de Gustave que la vision de la mort le hantait souvent à son âge. Il faut savoir, aux heures d'épreuve, s'incliner humblement devant la fatalité. D'ailleurs, votre grand-mère, que vous dites si vaillante, peut guérir. Je le souhaite, mais si mon père télégraphie, c'est qu'elle est très mal. Partirai-je ce soir ? Oui, mon enfant, notre ouvrage va lentement, je me passerai de vous sans trop de peine pendant quelques jours. Moi qui hésitais encore à me rendre rue Toulier, mon devoir à présent est d'y aller tout de suite, j'aurai juste le temps. Il me semble. Je ne vous verrai plus avant mon départ. Hâtez-vous. Présentez mes regrets à ces dames, je vous prie. Je vous écrirai de là-bas. J'y compte. Allons, bon voyage. » Chancelant de faiblesse, serrant dans sa poche le télégramme précieux, Gustave descendit au boulevard Pereire prendre un taxi. Paris était adorable d'allégresse sous les rayons dorés d'avril. Le long des avenues, les arbres, parés de leurs feuilles toutes neuves, sentaient bon le renouveau. À la Concorde, dans l'ample paysage de la Seine et des Champs-Élysées, ouvert ainsi qu'une campagne au ciel bleu de soie, une brise sonore flattait doucement le visage. Gustave regardait sans les voir les décors changeants de la ville, le va-et-vient de la foule affairée sur les boulevards, aux murs plus hauts que les parois d'un précipice, dans les rues resplendissantes des fièvres du travail et des lueurs de la richesse. Il n'avait dans les yeux, comme dans la pensée, que son paysage du Languedoc, qui lui semblait avoir quitté depuis si longtemps, et qui, à l'improvise, le rappelait par un cri de douleur. Il revoyait sa vieille cité de marraine, assoupie à l'ombre de ses boutiques, au murmure de ses clairs ruisseaux, et, dans la rue Saint-Jean, aux sinuosités de chemins de traverse, bruissantes d'oiseaux qui, du matin au soir, chantent entre les barreaux de leur petite cage, son magasin toujours pareil depuis sa naissance, avec ses vitrines maculées de la boue des charrettes, le seuil de la porte, si fréquemment foulé par les voisins et les clients qu'on avait dû le consolider d'une dalle d'acier. Il revoyait, auprès du bureau souillé d'encre, son père toujours souffrant, la canne en main, et sa mère placide, débitant des chaussures, et sa bonne mamette venant parfois de la cuisine, quelques légumes entre les mains, jaser avec la clientèle des cancans d'un quartier ou de l'autre. Ainsi, l'image du passé, empreinte profondément dans son cerveau, se confondait avec la réalité présente de Paris devant ses yeux. Lorsqu'il arriva rue Toulier, l'appartement des Cassagnols reposait dans une paix très douce. La servante, qui savait combien il était attendu, l'amena au salon sans l'annoncer. Comme tous les soirs, le soleil emplissait le balcon d'une jolie flamme rouge et répandait sur les rideaux de la fenêtre, sur les meubles, sur les plantes vertes, une étincelante poudre d'or. Gustave, déconcerté par l'éclat trop vif de la lumière, aperçut contre la cheminée, en 2 fauteuils rapprochés l'un de l'autre, Amélie et un jeune homme qui, un moment de confusion, le regardèrent. Ce jeune homme était évidemment le fils d'Erayac, son rival heureux, que, malgré tout, il détestait du fond de son âme, susceptible à cette heure. Mais, trop loyal pour ne pas reconnaître en lui la beauté de sa personne, la distinction de ses manières, il s'avança délibérément, avec une assurance tranquille, tandis qu'ils se levaient ensemble. Amélie présenta ses 2 amis l'un à l'autre. Puis, posant la main sur l'épaule de Gustave, elle osa, souple et souriante, lui reprocher ses négligences. Gustave, insensible aux caresses, ne songea pas, dans son chagrin, à se défendre. Amélie lui offrait un fauteuil lorsque Madame Cassagnol entra sans bruit. À la vue de Gustave, celle-ci frissonna d'un grand contentement et, levant les bras avec une exubérance affectueuse, qu'elle n'avait jamais manifestée pour qui que ce soit, elle s'avança vers lui. « Enfin, que devenez-vous ?»«
Ah, madame, pourquoi nous laissez-vous si longtemps sans nouvelles ?»«
Je vous en apporte qui ne sont pas bonnes. »«
Qu'y a-t-il donc ?»«
Lisez cette dépêche. Mamette est peut-être morte à l'heure où je vous parle. »
« Oh, pas si vite, voyons. Mamette peut encore vivre des années. »
« N'essayez pas de me consoler. Hélas, je n'ai qu'une peur, c'est d'arriver trop tard à ma reine. »«
Vous partez ?»«
Oui, ce soir. »«
Que le bon Dieu vous accompagne !» gémit à son tour Amélie, bouleversée au fond de l'âme par la vision imprévue de la mort de l'aïeule qu'elle avait également trompée.
« Mon mari n'est pas là, reprit Madame Cassagnole, mais il rentrera bientôt. »
« Tant pis, j'ai juste le temps de préparer mon bagage et d'aller à la gare. »«
Vous accepterez bien une tasse de thé ?»«
Non, merci. Vraiment, cela m'est impossible. Puisque je vais là-bas, je me chargerai volontiers des commissions que vous voudrez me confier. »«
Vous irez gronder Papette de ne pas nous écrire plus souvent. Voilà trois lettres de moi ou d'Amélie auxquelles il ne répond pas. »«
Ah ?»
Gustave devinait le conflit de famille dans lequel il ne pouvait, moins que tout autre, prendre parti. Confus, le front bas, il répondit à Madame Cassagnole, qui l'interrogeait sur la durée de son séjour à Marennes. « Je ne resterai pas longtemps chez nous, le travail ici me réclame. » Il se leva, là, distrait par sa douleur, s'inclina devant Charles Rayard, qui lui rendit son salut gravement, sans prononcer un mot. Puis, par un spontané sentiment de défi, de malignité peut-être, il dit à Madame Cassagnole « Et pour votre sœur de Rocas, vous ne voulez point de commission ?»«
Si, au contraire, je crois bien. Dites-lui, de ma part, les choses les plus aimables. »«
Je n'y manquerai pas. » Amélie lui tendait la main, toute large, confiante, comme autrefois. Il la lui serra mollement, par habitude, en la priant, non sans quelque ironie maussade, de ne pas se déranger pour lui. Madame Cassagnole le reconduisit donc, seule, dans le couloir, jusque sur le palier, avec une affectation de bonté maternelle, en répétant «
Bon voyage, Gustave, tous nos souvenirs aux vôtres, et vous nous écrirez, n'est-ce pas ?»«
Oui, madame.
Ne serait-ce que pour nous parler de cette pauvre mamette. »
Et de Papette Rességuier aussi. Vous savez que moi, je suis de ceux qui n'oublient pas. » À cette allusion, qui rappelait brusquement à Madame Cassagnole sa perfidie, ainsi que la trahison de sa fille, elle eut la force habile de ne point défaillir en son effusion de sympathie, et pendant qu'elle agitait la main par-dessus la rampe, il descendit rapidement l'escalier, sans relever une fois la tête. Le soir même, à la gare de Lyon, il prenait le train pour Montpellier. Après une longue nuit froide, il arriva dans son Languedoc, illuminé d'un joyeux soleil. Il eut d'abord une étrange sensation d'étonnement, presque d'angoisse, de trouver son pays dépourvu du charme d'opulence et de noblesse qu'il lui avait prêté autrefois avec son cœur de poète. Il lui sembla que ce blond terroir, couvert de vignes, dépouillé de ses bosquets sauvages, couronné de coteaux rouges aux brousses de genêts verdoyantes, ne disait plus le même langage, d'une éloquence merveilleuse et passionnée, à son âme, qui, pendant ses 4 mois de Paris, s'était nourrie de tant d'images, d'une vie artificielle et magnifique. La petite ville de Marennes faisait son bourdonnement de tous les jours, qu'interrompait de loin en loin le chaos d'une charrette de sarment ou d'un haquet de barrique. Dans sa rue Saint-Jean, il ne rencontra que des chiens couchés sur les marches de l'église. Tout à coup, il aperçut là-bas son magasin à demi fermé, si triste, avec son visage de deuil, dans le reflet bleu de la lumière qui, d'entre les toits, tombait sur le ruisseau comme sur un miroir. Il comprit que sa grand-mère n'était plus. Un flot de sang envahit ses joues, l'aveugla une seconde. Il pressa le pas, dans son impatience de revoir, de toucher sa maison, ses choses familières. À la porte du magasin, il dut, pour franchir le seuil, s'introduire de biais entre les rudes au vent mi-clos. Une ombre lugubre habitait la maison. À peine si, dans la cuisine, à la lueur du feu de sarment, il reconnut la femme de ménage, surveillant le bouillon d'une soupe de pois chiches. Il lui dit bonjour à la hâte et monta l'escalier. Au premier, dans le salon carrelé de rouge, qui ne s'ouvrait que dans les circonstances solennelles, ses parents, désormais plus seuls, songeaient à la tristesse de vivre, assis depuis ce matin l'un en face de l'autre.
Sa mère, qui avait entendu ses pas, courut à lui d'un bond. Ils s'étreignirent avec une tendresse jalouse. Ensuite, sans avoir pu prononcer une parole, Gustave s'empressa vers son père, qui geignait du mal de ses jambes. « Ah, mon fils !» dit enfin Madame Mourez, « que tu as bien fait de venir !»« Vous savez que je vous aime plus que tout au monde. Mamette, puis-je la voir ?»«
Oui, elle t'a demandé jusqu'à son dernier moment, et si contente que nous t'ayons télégraphié. La pauvre, elle n'a pas changé dans la mort. Ah, elle t'aimait beaucoup !»«
Je le sais, moi aussi je l'aimais !» Ils montèrent au second, dans la chambre que, pendant 25 ans, Gustave avait traversée chaque soir pour se rendre dans la sienne. C'était, dans la maison, l'unique pièce un peu éclairée, blanche, de la blancheur des draps qui, selon la tradition, recouvrait, en présence d'un mort, la glace et le lit deux fois séculaires. La rumeur de la ville n'y pénétrait pas ce matin. Car, dans le quartier même, planait la pensée de la mort souveraine. Les voisins, très bons, si charitables, si simples, qu'ils formaient vraiment une famille, participaient avec sincérité au deuil des Mourez. Les ménagères parlaient bas dans la rue, les enfants s'abstenaient de jouer, les marchands ambulants d'huile, de pétrole ou d'orange cessaient, en passant devant le magasin de chaussures, de crier leur prix de vente. Le bedeau de la paroisse vint disposer, au seuil du magasin, une table de bois recouverte d'un drap noir, et sur le drap, un crayon et plusieurs feuilles de papier blanc. Tous les notables de la société marinoise et les petites gens du peuple, toute la ville en somme, viendraient sûrement inscrire leur nom dans les colonnes du papier blanc. Les amis ne devaient que l'après-midi, selon l'usage, faire une visite aux Mourez. Mais vers 11 heures, Papette Rességuier apparut dans la rue Saint-Jean. Là-bas, dans son jardin, quand le facteur lui avait annoncé le décès de la brave mamère, il avait eu un frisson de stupeur, comme si jamais il n'eût prévu une pareille catastrophe. Il s'était tout de suite habillé du costume de velours qu'il portait en ville. Après quoi, il était parti pour la rue Saint-Jean. Un tourbillon de sang lui bourdonnait aux tempes et, s'appuyant sur sa canne, à chaque pas, il mâchonnait entre ses lèvres gercées des mots de plainte et de prière. Chez les Mourez, il refusa l'aide de la servante dans l'escalier obscur où pesait un silence qu'il eut craint de troubler par trop de bruit. Tout à coup, avec son air de détresse infinie, il se présenta dans le cadre de la porte, au salon. À sa vue, les Mourez furent saisis d'une crise de larmes. Tandis qu'il levait le pied sur la marche très haute, en soupirant de l'effort, Gustave s'élança pour l'embrasser, aussi passionnément qu'il avait embrassé sa mère tout à l'heure. Papette, qui depuis des jours n'avait pas versé une larme, tressaillit d'une colère violente, en frappant des pieds et de la canne, en étouffant ses lamentations dans son mouchoir, comme une femme. Enfin, il montra son rouge visage consterné, regarda longuement Gustave, qui lui dit « Je vous apporte des nouvelles de Paris ». Papette, d'un geste, l'arrêta. « Nous causerons de ça plus tard. Et toi, tu vas bien? Le voyage ne t'a pas trop fatigué ?»«
Pas trop. »
« Ah, mon fils, que de choses tristes il me faut encore voir à mon âge !» Il consentit, afin d'assister les Mourez dans leur désarroi, à partager le repas de midi, ensuite à demeurer auprès d'eux jusqu'au soir. Aucun des visiteurs ne s'étonna de le rencontrer dans le salon presque sombre. Tout le monde, à Marennes, croyait en effet que Gustave n'était allé à Paris que pour rejoindre les Cassagnoles et se marier avec leur fille. Dans la ville, où l'on s'était autrefois tant moqué de ses prétentions littéraires, on l'estimait beaucoup maintenant parce qu'il n'y avait eu besoin du secours de personne. Il se rendit compte de l'envie flatteuse qu'il provoquait chez ses compatriotes le lendemain de l'enterrement de sa grand-mère lorsqu'il sortit de sa maison encore à demi fermée pour s'en aller au jardin du chemin de Rocasse. Il trouva le bon Papette Rességuier en son pittoresque costume, le pantalon tenant au moyen de ficelle, le gilet au moyen d'épingle, le chapeau de paille, si drôle en ce mois d'avril, couvrant de ses ailes rabattues sa figure, qui paraissait plus mince et jaunâtre, pareille à une vieille poire mâchurée. Ils s'assirent sur le banc de pierre près de la porte de la cuisine, contre la muraille de la maison, qui avait la tiédeur agréable d'un corps bien vivant. Le soleil épanchait, à travers les aiguilles de pin, sa lumière, comme une couverture sur leurs jambes. Devant eux, la plaine déroulait ses vignes claires, constellée de bourgeons qui exhalaient un parfum de miel, ses luzernes touffues, ses champs bordés de roseaux qui, parfois, sous les mouvements de la brise, jouaient de la flûte. Au loin, au-delà de l'Hérault, s'élevaient les rouges collines incultes, revêtues de buissons d'aubépine ou de chênes rabougris, couleur de cendre. Elles vibraient d'un tel éclat, dans la limpidité de l'atmosphère, qu'il semblait que d'un léger effort, on pût les atteindre de la main. Dans le jardin de Rességuier, les oiseaux venaient par bandes chercher pâture sur les arbres en fleurs. Dans les jardins du voisinage ou les chemins de traverse, on entendait parfois les coups réguliers d'un pic, les exhortations d'une paysanne à son âne rêveur, le grincement précipité d'une noria ruisselante d'eau fraîche. Papette et Gustave, d'abord pensifs sous le charme toujours nouveau des choses familières qui composaient le langage de leur âme, étaient émus de s'aimer l'un l'autre davantage. Et ils eurent, à parler d'eux-mêmes, une volupté d'autant plus précieuse qu'ils la ressentaient peut-être pour la dernière fois. « Quel malheur de quitter tout cela bientôt !» s'écria Papette. « J'ai pourtant vécu si peu de temps !»« Que me dites-vous là ?» répondit Gustave. « Vous êtes aussi robuste qu'un de ces cèpes de vignes françaises qui vivent 100 ans. »« Je le croyais, je ne le crois plus. Un souci me ronge le cœur sans répit, tu sais lequel ?» « Oui, je sais. Tant pis. Pourquoi ne pas se résigner de bonne humeur? Si Amélie ne me trouve pas à son goût, elle a raison d'en épouser un autre. » « Sans doute, et c'est alors pour toi une chance de le remarquer, car sans amour, on ne fonde pas un foyer solide. Tout de même, quel malheur que mes enfants ne m'aient pas compris. Vois-tu, je suis pour eux trop peu de choses. Oh, par exemple !» « Oui, mon petit, je suis un paysan et qui n'en rougit pas et qui n'est pas un sot. Rose n'a jamais aimé sa sœur Marguerite. A-t-elle jamais vraiment aimé son mari, qui est si faible? N'aime-t-elle en sa fille qu'une créature docile dont l'élévation apparente doit logiquement, pense-t-elle, l'élever elle-même? Ces vérités sont pénibles à dire. Je ne les confie à personne. Mais ne serait-ce que pour m'en soulager un peu, je ne crains pas de te les confier à toi. » Vois-tu, ma fille et Amélie ont cru que dans la carrière littéraire, tu ne réussirais pas. Elles peuvent se tromper. Je te le souhaite, mon petit. Moi, à présent, elles me ménagent avec précaution, elles m'envoient des lettres pleines de gentillesse et d'un tas de m'amour. Mais si, dans le passé, j'ai pardonné à ma fille Rose des fautes parfois dures, c'est que j'étais plus jeune, absorbée par mon travail, et que je me faisais l'illusion qu'à l'heure de ma retraite, Amélie, en exauçant le plus cher de mes vœux, me récompenserait de tous mes bienfaits. Or, Amélie m'a également déçue. Et voilà, je n'ai plus rien, plus aucune raison d'exister. Si ce n'était pas la joie de voir le soleil, la vie me serait souvent odieuse. » Gustave écoutait, le front bas, ses réflexions qu'il savait trop justes. Il essaya néanmoins de protester contre le renoncement de Papette. Celui-ci doucement l'interrompit. « Merci, mon fils, tu es brave, mais je le sens très bien, je n'en ai pas pour longtemps. Et sache qu'avant de disparaître, je m'arrangerai, selon la loi, pour châtier les coupables. Oh, je vous en supplie, ne vous vengez pas. Pardon, pardon. » « Ne va-t-on pas m'accuser, moi ?»« Non, on n'accusera ni toi ni personne, car tout le monde sait que je n'ai jamais obéi aux suggestions de qui que ce soit. Et je me connais parfaitement moi-même. Ainsi, pourquoi ne le confesserais-je pas, puisque tout le monde le sait ? Je suis coupable, moi, d'avoir toujours favorisé les intérêts de Rose aux dépens de sa sœur Marguerite. À présent, c'est fini. Que ferez-vous ? Tu le sauras plus tard. » « Ah ! » Après un silence, le vieillard poursuivit. « T'es, ma foi, je ne peux plus garder seule ma pensée. Je veux rétablir l'équilibre des intérêts entre Rose et Marguerite. Rose, naturellement, espère recevoir une part de mon bien à ma mort. Alors je veux... La déshériter ? Non, pas tout à fait. Je lui laisserai, selon toute équité, le bien que j'ai reçu de sa mère. » Quant à celui que j'ai gagné à la sueur de mon front, je le mettrai en vente, m'en réservant la jouissance jusqu'à ma mort, qui est prochaine, et, aussitôt après la vente, je remettrai l'argent à Marguerite. Et voilà !» Il eut un geste d'énergie farouche, comme d'écraser une bête d'un coup de pierre. Puis, tandis que Gustave restait saisi d'étonnement, il ajouta : « Voilà trois lettres que mes Parisiens de pacotille m'écrivent sans que je leur réponde un mot. Je comprends leur impatience de conclure ce mariage avec leur Charles Raillard. Mon Dieu, ce garçon ne m'est pas précisément antipathique. Mais son père et sa mère sont des paysans madrés qui cherchent une bonne affaire sur mon dos avec ma fortune. Non, non, ils iront voir ailleurs. Oh, c'est dans le feu de la colère que vous faites ces menaces. Non, non, j'ai sérieusement réfléchi. Vous n'aurez pas le cœur de priver Amélie. Ils ont bien eu le cœur de me lâcher, ces ingrats. Allons, tout ce que je te raconte n'est pas très gai, je l'avoue. Eh bien, tais, regarde-moi ce jardin, s'il est soigneusement entretenu. Ça te prouve que je serai encore capable de m'attacher à la terre. Papette se leva, plus léger, montra d'un geste caressant ses arbres fruitiers, si gracieux dans la lumière du matin. Il se baissa dans des sillons humides pour admirer les petits pois, les haricots, qui déjà érigeaient leurs vertes crêtes luisantes. L'ayant amené dans le fond du jardin, que tapissaient des grenadiers aux fleurs sanglantes, il se détourna brusquement et dit « Et toi, Gustave, tes parents m'ont appris que tu es content, n'est-ce pas ?»« Moi, oui, pas mal. Explique-toi un peu mieux. » Gustave résistait dans sa simplicité au désir glorieux de lui confier une espérance si belle qu'il avait par sagesse ou par timidité cachée même à ses parents. « Eh bien, répondit-il enfin, puisque vous le voulez, voici. Je compte sur un succès qui serait vraiment une victoire définitive. Ah, que Mamette eût été heureuse! Elle n'eût plus douté de moi, de ma destinée, car elle n'était point sotte, quoiqu'elle sût à peine lire. » Je crois bien. Voyons, continue. J'ai présenté au Théâtre Français une pièce en trois actes. Il paraît qu'elle a quelque chance. Tant mieux, bravo. Ah, réussi dans ton entreprise avant que je meure, mon fils. C'est ton pays qui serait fier. Ce serait trop beau. Alors, Motus, n'est-ce pas? N'aie crainte, je ne vois personne. Papette le suivait vers la porte en l'amusant de bavardage pour le retenir encore un moment. Reviens chaque jour si tu peux. Je vous le promets. Seulement, je repartirai bientôt pour Paris. Oui, Paris. Tu y retournes maintenant avec plaisir. Et Papette, s'appuyant de l'épaule au cadre de la porte, regarda Gustave gravement une minute de silence, puis poursuivit. Tu me comprends? Je ne sais pas. Si, tu te rappelles, un dimanche matin, j'ai rencontré dans ta petite chambre à Paris la fille de ton maître. Je me souviens de son nom, Jeanne. Elle est charmante. Si elle te plaît, pourquoi dirais-tu non ? Gustave détourna les yeux et, une rougeur aux joues, il répondit d'une voix douce. Je ne dis pas non, mais la vérité, c'est que nous n'avons encore échangé aucun mot que personne ne puisse entendre. Bien, j'avais donc deviné. Te voilà pris au piège d'amour. Peut-être, mais Mademoiselle Jeanne ne connaît rien de la province. Et pour que deux époux s'accordent bien ensemble, ne faut-il pas qu'ils aient dans le cœur et dans l'esprit des idées communes, des visions pareilles de l'humanité et de la terre? Tu l'amèneras ici. Je suis sûr qu'elle aimera notre Languedoc autant que toi, parce qu'elle le verra sous ta protection, à la clarté de ton amour. Peut-être. À demain. Brusque, effarouché dans la pudeur de son rêve, Gustave se déroba. Par le chemin désert, il fila promptement, non vers la ville, mais vers le hameau de Rocas, dont les tours blanches du château étincelaient au loin, sur la butte rocheuse. Il marchait la tête haute, parmi la lumière et le vent pur de l'espace. C'était pour lui, à mesure qu'il s'enfonçait dans la campagne solitaire, une joie presque sensuelle de fouler le chemin poudreux que jamais n'avait mordu le soc de la charrue, et de ressaisir par lambeaux, au milieu des champs connus de lui mieux que son propre visage, les souvenirs de son adolescence mélancolique qui jaillissaient subitement d'un fossé, d'une olivette, d'un grand jour, où certains dimanches il avait fait la fête avec des camarades, d'une plage de l'Hérault, où, certaines après-midi de vacances, il allait, en compagnie de ses parents et d'Amélie, jouir de la fraîcheur de l'eau et des ombrages, manger des fruits, rire et chanter. Il longea un sentier blond le long des roseaux dont les amples flexibles brillaient au passage intermittent de la brise comme des épées au soleil. Il n'aperçut alors plus rien du hameau et aussitôt, sur la verdure onduleuse des vignes, le fantôme du passé s'évanouit dans un sillage d'or. À l'improvise apparut l'image de Jeanne, Jeanne qui était brune, franche et laborieuse, comme les filles de son Languedoc. Elle le frôla d'une main caressante, et dans l'ombre frêle des roseaux, il inclinait son front avec un émoi de plaisir et de gratitude. Jeanne chemina longtemps auprès de lui, selon le mouvement de son rêve, compagne charitable en ce jour de deuil. Et de même que le soleil, après les sombres mois de l'hiver, ranime tendrement la terre endormie, Jeanne réconfortée de la vertu de l'amour, le cœur las de Gustave. Tout à coup, il se trouva, tel un étranger, sous les remparts à demi ruinés du hameau, au pied de la rampe caillouteuse qui gravit la butte de granit. Là-haut, sur le vétuste clocher de la chapelle qu'il entrevoyait à travers les arbres du parc, une heure longue sonna. Il avait oublié la ville, la vieille maison bénie de la rue Saint-Jean, où son père et sa mère l'attendaient.